de tout dire. On oublie toujours quelque chose. En fait, j'essaye de prendre moi plutôt des textes où on voit qu'on parle de l'Église pour que ça reste, quand vous lisez, que vous rappelez ce que j'ai dit, plutôt que de faire des trop grandes théories qu'on oublie et puis qui nous passent au-dessus de la tête. Alors, dans Romains, au chapitre 16, c'est l'épître aux Romains. C'est en fait une épître que Paul écrit à des églises qu'il n'avait pas encore vues, pas rencontrées, qui existaient. Et il s'adresse à ces gens-là, à ses frères et sœurs, simplement parce qu'il sait qu'il doit continuer à construire leur foi, leur relation à Dieu. C'est quelque chose de très important pour Paul. Il aime bien que la foi soit solide, soit perfectionnée. C'est une passion chez Paul. Dans Romains chapitre 16, verset 1, nous voyons que Paul parle d'une église. Je vous recommande Phoebe, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré. Donc, dans le sud de la Grèce, il y a le Péloponnèse. D'un côté, il y a un isthme très étroit où il y a une ville artificielle qui a été créée, et de l'autre côté aussi, par l'empereur, pour traîner les bateaux sur la colline plutôt que de faire tout le tour. Et c'était des milliers d'esclaves là, 550 000 personnes qui ont été déportées de tous nos pays, d'un peu partout, qui habitaient là et qui tiraient les bateaux sur des poutres en bois couvertes de graisse. Et donc, Paul avait fondé une église à chaque bout, parmi ces malheureux. Il y avait aussi beaucoup de prostituées, puis il y avait aussi des fabricants d'amphores, des grandes urnes en terre cuite, puisque dans les bateaux, on mettait tout dans des amphores. Donc, je vous recommande Phoebe, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Sancré, donc une femme qui est diacre, hein, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a aidé plusieurs et moi-même. Donc c'est une femme qui est, on va voir question, il y a donc un besoin énorme, sans doute, de plusieurs personnes, et Paul a été dans le cas. C'est lui et Prissa et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Donc voilà le nom de deux collaborateurs. Il y en a pas mal. Hein. J'en avais compté 24 pour Paul. Ça donne déjà une image de l'Église, ça. Cet homme-là avec 24 collaborateurs et qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rends grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Donc les églises des païens, par définition, ce n'est pas les églises de Judée, d'Israël, sur la terre d'Israël actuelle. C'est des églises nées dans le bassin méditerranéen. Et c'est des églises des goïms, des païens. Et ce n'est pas péjoratif. Ce n'est pas péjoratif. Hein. C'est pour montrer de quelle église on parle. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Epaynette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Donc Epaynette, c'est un collaborateur de Paul qui est parti travailler dans les régions de Turquie pour évangéliser. Vous savez, quand Paul arrive et qu'il fonde une église, parfois il y en a eu qui sont passés avant lui, en commun accord, simplement poussés par l'Esprit Saint, par l'Esprit de Dieu. On attribue trop un modèle individualiste de l'évangélisation. Ce n'est pas comme ça que ça se passe en général. L'évangélisation se fait par plusieurs personnes, unis par le même Saint-Esprit. Et donc, vous voyez l'église qui est dans leur maison. Donc, ce n'est pas un bâtiment, il faudrait que vous reteniez ça. L'église, c'est une réunion de personnes qui sont appelées par Dieu à l'adorer et à ne pas vivre comme le monde. À ne pas vivre comme le monde. Retenez bien ça. Donc, une église n'est pas un bâtiment. Il faudrait se tirer ça de la tête une fois pour toutes. Et puis une église n'est pas forcément une assemblée de 2000 ou 10 000 personnes, ou de 500 ou de 300 personnes. Une église, ça peut être un groupe de 5-6 personnes qui est dans un endroit et qui adore Dieu, qui aime la parole de Dieu, qui la met en pratique. Ok ? Et regardez au verset 10. Bon, on va continuer à lire peut-être. Hein. Verset 6. Saluez Marie qui a pris beaucoup de peine pour vous. 7. Saluez Andronicus et Junias, mes parents, et mes compagnons de captivité qui jugent une grande considération parmi les apôtres et qui ont même été en Christ avant moi. Regardez comme c'est dit humblement. Saluez Ampias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ. Et Stachis, mon bien-aimé. Saluez Apollès, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Donc, il y a des gens qui se réunissent dans une maison d'un chrétien qui s'appelle Aristobule. Mais ça, c'est aussi une église. OK ? Ça, c'est aussi une église. Le plus grand nombre de chrétiens aujourd'hui se réunit dans des maisons en secret. Hein. Par exemple, au Kazakhstan, au Ouzbékistan, le principe est, pour échapper à la persécution et la prison, la torture, c'est que quand des gens comme ça, vous voyez des noms, ils ont arrivé à communiquer la foi à d'autres, par la grâce de Dieu, qu'ils sont entourés de 7-8 personnes. À partir de 7 personnes, il y en a un ou une qui est plus à même de continuer l'œuvre, qui se détache. S'ils sont 14, ils font deux groupes. Ils ne dépassent pas 7. Parce que quand la police est arrivée par des délations ou pour des écoutes téléphoniques, à savoir où ils sont, ils n'en arrêtent que 7. S'il y en a 300, les 300, ils passent. Donc dans Kazakhstan, Ouzbékistan, pendant très très longtemps, ça a été comme ça. Je ne sais pas si c'est encore comme ça maintenant. Parce que je ne reçois plus ce courrier là, un peu dommage, mais enfin. Pratiquement, vous devez vous dire qu'aujourd'hui il y a plus de chrétiens dans des petites assemblées comme ça que dans des grandes. Il y a actuellement une grande extension de l'évangile. Dans une revue de Testachar, Vive l'Express, j'avais vu ça il y a 5 ans. Que l'extension de l'évangélisme, de la foi chrétienne évangélique, était extrêmement rapide et dépassait considérablement l'extension de l'islam. C'était des athées qui faisaient ça, ces articles-là. Donc, nous avons souvent une espèce de complexe en disant ben, « ça n'avance plus à rien, ça ne sert pas, ça n'avance pas ». Si les apôtres et les premiers chrétiens avaient fonctionné comme ça, on ne serait même pas là aujourd'hui. Alors, vous voyez, saluez ceux de la maison d'Aristobule, au verset 10. Saluez Hérodion, mon parent, saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Donc, dans la maison de Narcisse, ceux qui sont dans la maison de Narcisse. Imaginez comment ça se passe. Hein? Saluez Tryphène et Trophime qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. Et puis, il faut faire attention à tous ces mots-là. Hein? Et par exemple, au verset 15, bon, je vais continuer à lire. 14, saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, et les frères qui sont avec eux. Regardez, il y a encore un autre groupe. Saluez Philologue, Julie, Néré, sa sœur, et Olympe, et tous les saints qui sont avec eux. Vous voyez le nombre d'églises qu'il y a là? Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. C'est une véritable contagion. Une véritable contagion qui s'est passée. Et évidemment, ça ne rigolait pas avec l'Empire romain et aussi avec les juifs qui étaient pas tous hostiles, mais les responsables juifs étaient extrêmement hostiles. Ils ne supportaient pas que un grand nombre de juifs quittaient leur synagogue pour devenir des chrétiens. C'est qu'au départ, ces juifs devenus chrétiens voulaient rester dans la synagogue, voulaient encore aller au temple. Mais c'est parce que les responsables juifs, en 69, à Janné, il n'y a plus des ruines là, à Janné maintenant, mais on peut aller visiter, il y a eu un concile et le judaïsme officiel a décrété qu'on ne pouvait pas être chrétien et juif. Sinon, tous les juifs convertis allaient toujours à la synagogue et allaient au temple. Ils ne cherchaient pas à faire... Mais qu'est-ce qu'ils ne cherchaient pas à faire la bagarre, Le problème, c'est que les responsables juifs ont vu, ben, s'ils continuent à rester avec nous, ils vont vider toutes nos synagogues et le temple. Et puis, le judaïsme officiel avec ses traditions va disparaître. Donc, ils n'ont pas compris la grâce qui est... Tous, en tout cas, il y en a. On voit dans Corinthe, il y a des chefs de synagogue qui sont convertis. Ah, c'est un sacré combat spirituel, tout ça. Mais il y a eu plein d'églises, généralement fondées par des juifs convertis, d'abord, mais aussi par la suite par de nombreux païens convertis. Il faut faire très attention, il faut lire attentivement. Il y a des chapitres qui ne nous intéressent pas beaucoup comme ça, mais il faut faire attention. C'est plein d'enseignements pratiques. Éphésiens chapitre 1. Je paraphrase un petit peu. Bon, vous savez, des livres de doctrine sur l'Église, il y en a ici dans l'étagère. J'en ai étudié. Je pourrais prendre point par point, le faire méthodiquement. Ben, je veux bien, c'est possible. Mais j'essaye plutôt de donner un aspect concret et surtout de démystifier les images qu'on a d'aujourd'hui de l'Église. Éphésiens chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Regardez, pour s'adresser à une assemblée, une église donc, hein, un ensemble de gens réunis, appelés par Dieu, vers Jésus-Christ, et qui ont accepté le pardon des péchés que Jésus a donné sur la croix, qui ont accepté le Saint-Esprit pour vivre dans la parole, pour vivre vers la sainteté, faire tout leur possible pour vivre dans la sainteté, comme Dieu le demande, eh bien ça, le mot église n'est pas toujours vraiment utilisé. Aux saints qui sont à Éphèse, donc, il est, une fois pour toutes, c'est acquis que ces gens-là ont une vocation de sainteté et que, de toute manière, Jésus a pris en main leur vie et ils seront complètement, parfaitement saints un jour devant sa face. Même si ça prend du temps, ou en tout cas, il faudra la grâce. C'est clair, il faut la grâce. C'est pas par les efforts personnels que ces chrétiens-là seront saints. C'est un cadeau de Dieu, la sainteté, à conserver et à mettre en valeur pour Dieu. Mais c'est un cadeau de Dieu, c'est une grâce. Aux saints qui sont à Éphèse, aux fidèles en Jésus-Christ, donc ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Alors, vous voyez bien que les deux mots vont ensemble. Il n'y a pas de sainteté sans la foi en Jésus, sans de confiance et de relation complète à Jésus. Comme il n'y a pas de foi en Jésus-Christ, s'il manque la volonté et le désir de sainteté, il n'y a pas de véritable. C'est vide, c'est du mensonge. C'est fort important de voir que tous les mots sont pesés par Paul et qu'il faut les peser pour nous aussi. Au verset 22-23, toujours au chapitre 1, versets 22 et 23, donc c'est Dieu hein, qui a mis tout sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église. Qui donc? Jésus-Christ. Nous sommes sous les pieds de Jésus. Vous imaginez? Bon, il faut bien comprendre que la personnalité que nous avons reçue de nos parents, parce que le péché d'Adam et Ève est transmis, cette personnalité-là doit être morte. Elle doit être morte. Vous avez vu les commentaires tout à l'heure de Michael sur le psaume hein, 19. Eh bien, pratiquement, quand à un moment donné, l'espace où se trouvait l'eau se trouve dénué d'eau, parce que Dieu a retiré les grandes eaux, c'est simplement parce que l'eau représente la mort, l'Ancien Testament. La mort est étirée. Et quand quelqu'un est baptisé, ici j'espère qu'il y a encore des baptêmes, mais pratiquement il est retiré de l'eau. Pourquoi? Il est retiré de la mort. Mais avant il a été mis dans l'eau. Et il était dans la mort. Il était dans la mort, il est mort. Et quand il est retiré par Dieu de la mort, c'est une grâce. C'est une grâce. Et donc il faut faire attention que avant d'être dans la main de Christ, on passe par sous ses pieds. Sous ses pieds, l'ennemi était vaincu, il était sous les pieds du vainqueur. Eh bien, il faut que le Christ ait pris la victoire sur nous, notre vieille nature, il est brisé. Et il est clair. Hein? Moi, je vois, je vais parfois en visite autre part. C'est très difficile de... Il faut que dans une église, il y ait des personnes un jour qui prennent la responsabilité. Ça arrive sans doute ici comme autre part. Pratiquement, si le point de départ de la conversion de la personne qui a des responsabilités dans l'église est mauvais, et tout le monde peut avoir l'apparence que c'est une personne qui est bien chrétienne. Au fur et à mesure des responsabilités qu'il va y avoir et des attaques de Satan, le point de départ va se dévoiler comme mauvais. Il faut surtout vérifier, il faut être très attentif à la fondation, à comment le point de départ de la foi est arrivé chez quelqu'un. C'est surtout ça, parce que par la suite, que pour le baptiser, pour le marier, pour le prendre comme membre dans l'église, et pour qu'il y ait une place de diacre ou d'ancien dans l'église, c'est ça le point de départ. Si le point de départ est de travers, bon, je connais un cas où la personne s'est donnée à Jésus parce qu'elle avait peur de la mort. Bon, je suis dans ces, je vais de temps en temps là, et je dis, mais c'est un point de départ qui est complètement mauvais. Ça ne m'étonne pas que 25 ans plus tard, cet ancien trahit tous les principes chrétiens, et sa famille et tout. On ne devient pas chrétien parce qu'on a peur de la mort. Les athées, il y en a qui ont peur de la mort, etc. C'est pas pour ça que quand quelqu'un a peur de la mort, tiens, viens, on va prier avec toi pour que tu deviennes chrétien. C'est complètement faux, ça. C'est quand la personne sait qu'elle est séparée de Dieu par son péché, qu'elle demande pardon pour son péché, qu'elle accepte le sacrifice de Christ et le pardon de Jésus sur la croix, c'est à partir de ce moment-là que le péché n'a plus autorité et que le Saint-Esprit prend l'autorité. Et que la mort n'a plus d'effet. La mort n'est qu'une conséquence du péché. On ne devient pas chrétien parce qu'on a peur d'une des conséquences du péché. On devient chrétien parce qu'on ne veut plus le péché et parce que Dieu nous a montré que c'est ce qui nous sépare de lui. Donc voilà un point de départ, et puis 25 ans ancien, et puis boum batatra, boum. Il ne faut pas confondre les choses, les conséquences du péché et la nature du péché. On devient chrétien pour radicalement être sous les pieds de Christ et que le péché soit piétiné, écrabouillé, ou, comme dit Paul, crucifié. J'espère que tout ça est clair. Une église, c'est un ensemble de gens dont le péché était crucifié. Et regardez bien, il y a toujours des problèmes chez ceux. Parce que quand on est dans une église, généralement, nous, ça se passe ici, il y a des gens qui viennent de différentes églises. C'est rare, il y en a qui ont commencé la foi ici, avec, quand je suis sorti de l'institut biblique, mais il y en a d'autres qui viennent... Comment ils ont été enseignés? Comment ils ont été baptisés? Sous quel esprit ils ont commencé leur vie chrétienne? Est-ce le Saint-Esprit ou un autre esprit? Sous quel baptême? Tout ça, ça amène une complication dans l'Église, une complication de discernement, et... on se rend compte que tout le monde, il n'y a personne parfois qui a le même comportement, les mêmes réactions, et bon, devant le pasteur, on se tient à carreau, mais par derrière, quand les personnes parlent entre elles, si j'ouvre mes oreilles, j'apprends des choses, je me dis, quelle pagaille, quelle farfouille, qu'est-ce que je dois faire? Prier, évidemment, prêcher, évidemment. La deuxième chose, parfois, il est nécessaire de trancher, et de dire les choses comme elles sont au concerné ou à la concernée. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu de paix et d'ordre qui dirige l'Église. C'est pas le diable et le péché. Mais ce n'est pas facile. Moi, je pars du principe que, à mon avis, plus ça avance, plus c'est le chaos, moins il y aura de pasteurs, moins il y aura de gens pour assumer ça. Parce que c'est un casse-tête. C'est un casse-tête. Prenez 10 puzzles d'enfants ou même d'adultes. Il y a des puzzles de 2-3 000 pièces. Vous en mélangez 10 ensemble. Et puis vous dites à 3 personnes, ce soir vous avez remonté tous les puzzles. Vous allez voir. Mais dans certaines situations, il y a des pasteurs qui ont peut-être de la chance. Ils ont fait des barricades avec des règlements et tout. Et puis ils n'ont que des gens tip-top, comme ça. Moi, je n'ai pas cette chance-là. Parce que j'aime bien d'évangéliser, d'amener des personnes au Seigneur, et puis que chacun a son chemin. Chacun a son péché, chacun a ses grâces. Et je ne pars pas de l'idée, tip-top, paf, c'est du béton, c'est... on a mis des ferrailles et ils ne bougeront plus. C'est complètement artificiel, Jésus n'a jamais parlé comme ça. Quand Jésus a dit qu'il y a du blé livré dans le champ, il y a des brebis et des boucs, eh bien évidemment, c'était d'un profond réalisme. Mais les brebis ont été sous les pieds, pas les boucs. Le blé, il est passé dans la meule et il a fait de la bonne farine pour faire du pain, pas livré. À chacun de nous de savoir si réellement il est vraiment enfant de Dieu ou pas. Donc, on ne pourra pas donner un certificat à la sortie de l'Église à quelqu'un. Tu es le parfait chrétien en Christ. Chacun doit s'examiner, chacun doit avoir une conscience devant Dieu, où toutes les souillures qui le trompent, parce qu'on a, du plaisir à se tromper soi-même, à se lancer des fleurs, ou à se dégrader soi-même, il y en a, et on peut se tromper. C'est en regardant la parole de Dieu, en méditant avec la parole de Dieu, qu'on peut s'analyser. Bon, alors j'en reviens au sujet, c'est que dans Éphésiens 1, verset 22, il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Dans le cas de vrais enfants de Dieu, c'est clair. Avant d'être dans la main du Christ, hein, Jean chapitre 10, hein, ils écoutent ma voix, ils me suivent, etc. Puis nul ne vous ravira de la main de mon Père. Avant d'être dans la main du Père, il faut être passé sous les pieds de Christ. Et passer dans la main de Christ. Je pensais à ça hier. J'étais au bois, j'étais seul à un moment donné. J'aime parfois bien d'être tout seul. Et même ici, ou autre part, parfois je me couche sur le lit, c'est pas pour dormir, c'est pour pouvoir méditer, réfléchir, sans le tohu-bohu. Alors, je me dis, Seigneur Jésus, à un moment tu as dit que nous serions dans tes mains. Ben, je vous donne un cas bien flagrant. Ça m'est venu à l'esprit comme ça hier. Si Jean-Louis est dans les mains de Jésus, j'imagine Jésus sur la croix. Le soldat romain lui met des clous dans les mains. Donc il l'a mis à travers Jean-Louis. Là, Jean-Louis d'un côté, là, sa femme de l'autre. Si vous êtes dans les mains de Jésus, où est la marque des clous de Jésus dans votre vie? Où est la marque de la mort en Christ? S'il vous plaît. Ça m'est venu à l'esprit. Ah, c'est bien, je suis dans les mains de Jésus, il me garde. Ah ben, sur la croix, j'étais bien gardé dans la main de Jésus, hein? Par les clous. Il faut oser reconnaître ça. Que Jésus me tenait tellement dans ses mains qu'il a été cloué à la croix, mais que la vieille nature d'Adam en moi a été au même moment crucifiée. Purée, quand j'ai pensé à ça, j'ai dit, Seigneur, jusqu'à la fin de ma vie, en méditant, en cherchant ce que tu veux dire, je vais toujours découvrir quelque chose. Mais alors, c'est radical. Vous imaginez? Un clou qui vous traverse, et derrière vous, il y a la main de Jésus. Réfléchissez, je vous garantis que ça donne une considération de notre vie et du Christ, parfois bien différente de la théorie. On n'est plus dans la théorie avec Jésus. On est dans la passion et la résurrection de Christ. C'est bientôt Pâques. Hein? On est dans sa passion et dans sa résurrection. Voilà. Et aussi dans l'ensevelissement entre les deux. Alors, chef suprême de l'Église, voilà notre chef. Qui est son corps? Donc l'Église est le corps de Christ, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc l'Église est le corps, et Jésus, chef suprême, est la plénitude de tous les membres de l'Église, des vrais membres crucifiés en Christ, la plénitude. Donc, ce qui veut dire, les amis, c'est s'il est la plénitude, s'il me remplit, ça veut dire qu'avant, au moment où j'ai découvert mon péché, j'étais vide. Je suis tellement vide que ça me fait la trouille, ça me fait peur et j'ai plus envie de vivre comme ça. Je suis vide, vide de sens, sans vie, vide de tout amour, de vrai amour, vide de toute pureté, vide de toute vérité. Je faisais mes combines et tout le bazar, vide de... Je suis plein de pagailles en moi, de la confusion, mais je suis vide. Alors, le Seigneur veut me remplir. Un tonneau vide, un tonneau de vin. Vide n'est pas comme un tonneau de vin rempli, je suppose. Quand vous êtes à table, quand on mange, il y a une cruche d'eau sur la table. Si, à tous les repas, il n'y avait que des cruches vides devant nous, on tirait une sacrée langue. D'ailleurs, moi, c'est bien simple. Dès que la table est là, je vais toujours chercher, voir s'il y a de l'eau. Puis je vais rechercher n'importe quoi pour mettre de l'eau. Parce que je n'ai pas envie d'être vide. Traverser le désert avec une gourde vide, vous allez voir. Traverser une vie sur terre avec une âme vide. Avec un cœur vide, un esprit vide. Donc, nous comprenons bien que Jésus est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. J'espère que tout ça, c'est très concret, très très concret. Hier, j'ouvre mon téléphone, figurez-vous que j'ai un téléphone portable, au miracle. Je vais souvent parler parce que j'ai des surprises. J'écoute, mais comme j'écoute pas souvent, hier j'écoute, et j'avais 3-4 jours de retard. Et qu'est-ce que j'entends d'un village au Luxembourg, une personne qui me parle en français, avec un petit accent, on reconnaît tout de suite. Et la personne pleurait, mais pleurait. Elle n'arrivait presque pas à me parler. Pourquoi ? Elle est tellement vide qu'elle est au bord du désespoir, du suicide. Donc moi, demain, j'ai rendez-vous à 4h30 chez cette personne, de l'autre côté de Luxembourg. Mais c'est quoi ça, quelqu'un qui est vide ? Il va aller chez les psychiatres, il aura des cachets. Ah, il aura des cachets, il n'y a pas de problème. Et puis s'il faut, on va le taper en psychiatrie pendant un certain temps. Et quand il va être là, il va rencontrer des gens vides. Le vide appelle le vide. Quand on est dans une navette spatiale, s'il y a un trou, ou dans un avion à 15 000 mètres, 16 000 mètres, un avion, s'il y a un hublot qui casse, le vide, il aspire tout le monde. Si la porte s'ouvre à 14 000 mètres, et hop, aspirateur. Le vide appelle le vide. Ce monde est vide. Et il aspire. Et nous devons avoir une autre force. Qui nous remplit et qui attire les gens vers le plein. Yavol ? J'espère, en tout cas. Alors, regardons chapitre 2. Chapitre 2, verset 10. Nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Jésus, comme un potier qui aurait de l'argile en main, c'est dans tous les Jérémie, Ésaïe, etc. C'est toujours la même chose. Nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ. Donc, à un moment donné, quand j'ai vu mon péché, j'étais complètement défait. Défait. Quand je me donne à Jésus, il me reprend en main et il me recrée. Il recommence le vase. Et il en fait un vase d'honneur. Combien de fois on a ce texte-là dans l'Ancien Testament ? On voit le potier, il tourne avec son potier, avec les pieds. J'ai fait de la poterie, moi j'aimais bien ça à 12-13 ans. Dommage qu'il n'y avait plus de cours de poterie après. On devient plus grand, on n'a plus besoin. Tu parles. Alors, j'aimais bien chipoter avec les mains, faire des vases, faire de tout. Même des cendriers, j'ai jamais fumé. J'ai même fait des beaux cendriers. J'ai donné à des amis. Alors, pratiquement, ce qui se passe, le vase ne me plaît pas. Qu'est-ce que je fais ? Pouf, pouf, je reprends l'argile. Je repétris tout ça. Je le remets au milieu, bien dans l'axe. Et puis, je recommence à mettre les doigts. Et je refais un autre vase. Eh bien, c'est ça, avec la nouvelle naissance. C'est ça, la recréation. C'est ça, la nouvelle naissance. Nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc, bonnes actions, bons engagements. Fini les mauvaises actions, les mauvais engagements que Dieu a préparés d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, on rentre dans un programme. On rentre dans un programme de Dieu. Plus dans le programme du péché, plus dans le programme de Satan. Un programme de quoi ? De bonnes œuvres. Ah tiens, je suis scout, je vais faire une BA, bonne action. Ça, c'est une parodie du christianisme. Dans tous les troupes scouts, c'est une parodie. Mais sans le Christ. sans le Christ, on va faire des bonnes œuvres. Ça fait que, tellement ça a marqué la conscience de certains gens, hein, eh bien, ça les pousse à être généreux avec les autres, etc. Oui, ils sont serviables, mais quand on leur annonce l'Évangile, ils ne viennent pas forcément à Christ. Les bonnes œuvres donnent un contentement, une image de soi positive, mais ce n'est pas ça que Dieu a demandé. C'est d'abord être en Christ, et ensuite faire les bonnes actions et les bonnes œuvres. En Occident, on a édulcoré le message. Le fondateur de la Croix-Rouge, Henri Dunant, pas Dinant, Henri Dunant, était chrétien, il a été dans des batailles, hein, qui ont amené beaucoup de morts, et on laissait les gens mourir. On les laissait, carrément. On se sauvait, on laissait les copains à terre et tout. Donc Henri Dunant était protestant, il a fondé la Croix-Rouge. Il a demandé la permission aux armées d'aller sur les champs de bataille, qu'on ne tire pas dessus, s'il y avait une Croix-Rouge devant et derrière. Et il a trouvé des volontaires. On a ramassé les morts, de quelque soit de gauche ou de droite. Bon, méchant, tout, on a tout pris, on les soignait. La Croix-Rouge, maintenant, n'est pas chrétienne. On s'en fout du Christ. On sera bon par nous-mêmes. Encore une confirmation du péché d'Adam et Ève. On sera bon par nous-mêmes. Quand le fondateur d'Amnesty International, un Anglais, il se trouve au Portugal, il en a tellement marre de la misère qu'il voit à droite et gauche, il s'assied dans une église au fond, et il est effondré. Il prie. Tout d'un coup, il lui vient l'idée de toute la stratégie de Amnesty International pour sauver les gens de la misère, de leur emprisonnement injuste, etc., des oppressions, par des systèmes d'écriture, de gens qui écrivent, etc., aux autorités et tout le système de Amnesty. Il le propage, il le lance. Mais après, ça marche tellement bien que tous ceux qui sont là n'ont pas besoin de son Jésus-Christ. Nous ne devons pas oublier tous les jours, jusqu'à la fin de notre vie, que tout ce que nous devons faire, c'est en Jésus-Christ, pour Jésus-Christ, avec Jésus-Christ. Autrement, on retombe dans le péché de l'autosatisfaction, du salut par les œuvres, et on a jeté Jésus-Christ, ou, regardez l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse, ils ont abandonné leur premier amour. Repens-toi d'où tu es tombé. Donc, le vrai message évangile, c'est toujours la communion à Christ. Ensuite, le caractère de Christ en moi, parce que Christ est là, pour faire comme Christ. Mais pas sans Christ. S'il vous plaît. Donc, la vraie Église est en union, en communion avec Jésus-Christ. Voilà, les œuvres préparées d'avance, que Dieu veut, comme il les veut. Verset 19 du même chapitre. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors. Pourquoi ? Parce que il y avait le peuple juif, il y avait les païens. Il y avait le peuple juif avec Abraham, toutes les promesses faites à Abraham. Et puis ensuite, ce qui se passe, on en parlera dimanche prochain, d'Abraham et de ses promesses. C'est fondamental de savoir ça pour un chrétien, pour n'importe quel croyant en Christ, les promesses abrahamiques. Alors, pratiquement, et comment ça s'est exécuté en plus ? Comment Dieu le veut ? Ce qu'il y a, c'est que il faut savoir qu'il y avait des gens qui s'estimaient dehors et des autres dedans. Je ne suis pas juif, donc je suis pour rien, quoi. C'est presque comme les mécréants dans l'islam, quoi. Les musulmans, puis les mécréants. Ben, les juifs, ils avaient le même fonctionnement que les autres. Et les autres, parfois, s'estimaient étrangers aux promesses de Dieu, aux patriarches, et tout le reste. Vous pouvez avoir des gens aujourd'hui qui ont besoin de Dieu et qui s'estiment indignes, qui s'estiment pas choisis par Dieu et qui disent en leur cœur « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous avons un homme qui est venu ici, il n'y a pas longtemps, avec une queue de cheval, qui a plusieurs cancers sur lui. Un homme, mais vraiment gentil, un type brillant, qui est peut-être passé par des tas de chemins, on sait bien ça, mais ben... Église hypocrite pour les y croire qui n'ont pas passé par des mauvais chemins. Alors, on est tous des pécheurs. Alors, pratiquement, ce qui se passe, il est peut-être en train de mourir. Et il estime, la seule chose qu'il a lue de l'Évangile, qu'il l'a renue, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il s'estime en dehors. Ma femme, depuis plusieurs jours, insiste que j'aille le voir. Ben oui, j'ai dit, oui, quand les réunions de l'Église seront finies aujourd'hui, j'y vais, parce que, mais pas forcément aujourd'hui. Je dis, si tu me le répètes plusieurs fois, on ne va pas faire le coup d'une telle jeune femme qu'on en parlait nous deux, et puis après, le lendemain, elle s'était jetée du pont de la Pétrus à Luxembourg. Cette fois-ci, non. Tac. J'y vais ce soir. Alors, il ne faut pas remettre à demain ce qui doit être fait tout de suite, hein, pour le Seigneur. Alors, parfois, Dieu dit aussi, tu as le temps. Mais des fois, tu n'as pas le temps, vas-y. 2:19. Vous n'êtes plus des gens, des étrangers, ni des gens du dehors. Vous êtes concitoyens des saints. Donc, vous faites partie de la même cité que les saints. Ou au ciel. Pour Dieu, il n'y a pas de différence. Hein? Entre un noir, un blanc, un grec, un juif, etc. Hein? Vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Ah, voilà. Voilà un terme pour dire église. Gens de la maison de Dieu. On pourrait mettre sur les panneaux blancs, là, parce qu'il n'y a plus le truc, là, ça me désole un peu depuis 2-3 mois. Ici, il y a des gens de la maison de Dieu. On pourrait les mettre, il y a toutes sortes de formes d'appellation. Alors, pratiquement, allons dans le chapitre 5. J'ai épluché les épîtres. Oui, je les ai épluchés. Pourquoi ? Ben parce qu'il y a des mots pour dire l'Église et qui ne sont pas le mot Église. Jean chapitre 5. Verset 25. Jean, Éphésiens plutôt. Hein? Éphésiens, Jean. Éphésiens, chapitre 5, verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que le Christ a une passion. Le Christ n'a jamais montré qu'il avait besoin d'utiliser son sexe et d'avoir une femme dans son lit, ou d'en avoir plusieurs, ou un garçon ou un jeune homme dans son lit. Il n'a jamais montré ça. Parce qu'il a la plénitude en lui, il n'a pas besoin de se compléter avec quelqu'un. Il a simplement un immense amour pour son père, et le père un immense amour pour son fils. Mais c'est un amour de plénitude. Ce n'est pas un amour de castration. J'aime parce qu'il me manque quelque chose. Ce n'est pas un amour de complémentarité. Je l'aime parce qu'il complète ce que je suis. Ou j'ai besoin de lui ou d'elle parce que ça me complète. Alors, pas du tout en Dieu. Ni dans le Père, ni dans le Fils, ni dans l'Esprit Saint, ils sont la plénitude. Alors, le Christ a aimé l'Église sans avoir besoin de l'Église. Sans trouver dans l'Église son complément. Sans trouver dans l'Église ce qui lui manquait. Le Christ a vraiment aimé l'Église et il l'aime toujours parfaitement, purement, saintement. Saintement. Nous, on a encore des rallongemètres pour s'aimer. Chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Il s'est vendu aux Juifs, aux Romains et à Satan pour être crucifié. Comme un esclave, il s'est livré. Et il s'est fait prendre pour rien du tout, tout le long de sa vie et au Golgotha. Il ne cherchait ni la gloire des hommes, ni du diable. Il était tout à fait venu gratuitement pour nous. Pourquoi ? Pour sanctifier l'Église en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. Vous imaginez ? Il est venu pour nous laver, pour nous purifier. Il est venu simplement pour nous rendre beaux aux yeux de Dieu, pour nous rendre aptes à être en face de Dieu. Autrement, n'y être rien du tout, tous en enfer. Mission gratuite, mission entière, mission de salut pour les hommes. Alors que lui aurait pu rester où il était. Et il est venu dans un amour parfait. Il a aimé l'Église, au verset 26, pour la rendre sainte, en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. Donc, aujourd'hui, si nous aimons la parole de Jésus, si nous la lisons régulièrement, c'est un gros problème dans nos églises. Si nous prions régulièrement après avoir lu la parole, parce qu'il ne suffit pas de la lire, puis zoom, badaboum, il faut prier, il faut la méditer pour qu'elle rentre. Vous savez qu'une grosse drache, un orage, quand ça tombe sur le sol, il y en a 10% qui rentrent dans le sol et tout le reste va dans les égouts. Si ça tombe tout doucement là, hein, tout doucement pendant des jours et des jours, tout rentre, hein, eh bien la parole de Dieu c'est tous les jours. Et ce qui se passe, elle nous purifie. Pourquoi ? La parole, ben c'est parce que c'est la parole de Jésus. C'est pas qu'un tas de papier. C'est pas qu'un tas de papier, c'est Jésus qui me parle. Dans l'Ancien Testament, quand même, il ne me parle pas. Hein. Oh ! Jean chapitre 5, verset 39. Toutes les Écritures rendent témoignage de moi. Il y a Paul ? Alors, cherchez Jésus dans l'Ancien Testament, il y est aussi. Combien de phrases, de versets dans le psaume que Michael a commenté conviennent à Christ, hein ? Il y en a plein qui conviennent à Christ. Quand il va régner sur toutes les nations, il y a une partie de ce psaume, c'est pour ça. Clairement. Alors, nous sommes en demeure, quand nous parlons d'Église, de comprendre ce que c'est que l'Église et de comprendre ce qu'on doit être dans l'Église et ce qu'on doit être pour Dieu. Alors, vous voyez bien au verset 25, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride. Donc, une Église n'est pas vieille, elle n'a pas de ride. Elle rajeunit au fur et à mesure qu'elle aime la parole de Dieu, qu'elle la médite. C'est tout le contraire du processus physique normal. Quand on aime la parole de Dieu et qu'on la lit et tout ça, je disais il y a deux jours à Marie-Hélène, c'est bizarre, il y a des jours où on pète la forme, et alors qu'on est en train de vieillir. Alors, tous les deux on se disait, c'est le Seigneur, comment qu'on arrive encore à faire tout ça ? C'est le Seigneur, c'est tout, point à la ligne. Autrement, on serait sur les jambes tous les jours. Il n'y aurait même plus de pneus. Alors, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, dans la gloire du Christ, pas dans la nôtre, hein, il n'y en a pas, sans tache, donc sans péché, ni ride, eh bien, il pas. Une Église peut rajeunir, un chrétien peut rajeunir, plus il s'approche du Seigneur, plus il vit dans sa parole, plus il a cette paix, cette joie, cette vie. Ni rien de semblable. Que cette Église, ni rien de semblable, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'il y aurait bien d'autre qui ressemble aux rides, hein, aux tâches, etc. L'hypocrisie, le mensonge, la double vie au niveau de la pureté, etc. Et puis, tout ce qui est dans notre âme qui souvent essaye de nous faire chavirer, les fantasmes et tout le reste, les désirs, les feux d'amour, hein, une série de films. Eh bien non, rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Vous savez, quand on est dans son lit, qu'on prie le Seigneur et qu'on s'adresse à lui, et qu'on se réjouit, on parle avec lui, on est dans la paix, hein. Et on se sent en plein repos avec lui. Mais qu'on se laisse aller dans tout le cambouis qui peut, ça fait, ça dépasse, hein. Ça nous dépasse. Pardon Seigneur, j'ai encore passé du temps en dehors de toi. C'est pas croyable Seigneur que j'aime encore ce péché-là, que j'aime encore ci, que j'aime encore ça. C'est pas croyable que je laisse encore le diable se frotter les mains et me faire perdre du temps qui t'appartient. Seigneur, aide-moi, au secours. Alors, au nom de Jésus, arrière Satan, laisse ma conscience tranquille, laisse mes esprits, mes rêves tranquilles, que je puisse être avec mon Seigneur à tout instant, car je lui appartiens entièrement. Donc il faut arriver à confesser Jésus devant les puissances invisibles. Il faut arriver à confesser son maître, son Seigneur, devant les puissances invisibles. Qui nous viennent toujours nous attirer comme des aimants un peu partout. en dehors du centre, en dehors de Christ. Alors, vous voyez bien, il faut faire attention. C'est très fort ce qui est mis dans ce texte. Verset 28, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps, donc à l'image de Christ, c'est un sacré programme. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Moi, je ne me sens pas obligé de me lever et de mettre la table au matin et de ranger la vaisselle. Je ne me sens pas obligé. Parce que j'ai compris que c'est une profonde joie que de le faire, parce que le Seigneur là le dit. Et c'est tout à fait logique. Allez, hop, hors du plumard, et vas-y. Sans regret. Pourquoi ? Parce que c'est mis. Ah non, hein, c'est elle qui va mettre la table. Hein. Ah, c'est elle qui va ranger la vaisselle. Hein. Ah, c'est elle hein, qui va faire ci, faire ça, qui va y prendre les linges. Ah, c'est elle qui va les mettre dans la machine. Hein. C'est elle et c'est elle, et moi je suis le maître. Hein. Oui, je suis le maître. Le maître de mon péché. À peine, plutôt que le péché, mon maître. Alors, l'image, c'est que dans le corps, il y a une profonde attention à l'autre, mais dans l'Église, le Christ le fait pour l'Église. Aujourd'hui, le Christ le fait pour l'Église. Il veut me nourrir. Il veut prendre soin de moi. Il veut que je sois son bras, sa main, son corps. Ah ! Que je sois tout à lui, et lui à moi. Un vrai mariage. Un vrai mariage. Oui. Continuons, verset. Moi, j'ai déjà fait. Verset 32 est très important. Ce mystère est grand. C'est-à-dire, cette réalité-là, divine et grande, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc, ce qui se passe entre le Christ et moi, et nous, ici, c'est quelque chose de tellement puissant, tellement grand, qu'il nous dépasse et que Dieu nous dévoile dans notre âme, dans notre esprit, au fur et à mesure de tous les jours. Est-ce que nous apprenons ce que c'est que l'Église un peu mieux tous les ans? Ou simplement, on va refaire une assemblée générale aujourd'hui, oh, c'est comme les autres fois. Faut se farcir. Je prends un poil en dessous des bras, je fais ça, puis je fais... Non! Je ne considère pas que l'Église... fait de la marche arrière ou du stationnement, elle met des pièces dans le parc-mètre et puis elle reste sur place. L'Église est dans un rapport étroit avec son Christ. Donc, il n'y a pas une journée qui est la même, pas une année qui est la même. Donc, il n'y a pas une rassemblée générale qui est la même que l'année d'avant. Ou alors, on sait qu'on s'est déjà enterré soi-même et qu'on ne vit plus avec Christ. Si c'est comme ça, il faut prendre le sac et la cendre. Philippiens chapitre 1. Philippiens chapitre 1. Verset 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Voilà ici qu'il dit à tous les saints, donc c'est clairement à tous les chrétiens. Et puis, il s'adresse en même temps, évêque, épiscopos, c'est celui qui veille dessus. Épiscopos, scopos, hein, microscope, télescope, ça veut dire regarder. Celui qui regarde sur l'Église, c'est-à-dire qui prend soin de l'Église. Quoi. Et, on appelle ça ancien, néodiacre, diaconos, tous ceux qui servent dans l'Église pour qu'il y ait une harmonie entre les rapports des chrétiens, qu'il y ait une justice économique, une justice à tout niveau, matériel, et une justice spirituelle. C'est un gros boulot. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc l'Église doit être sous la grâce, charis, donc la marque, la bague royale. Et moi, je suis comme la paraffine, nous sommes comme la paraffine, nous sommes scellés de la marque de Christ, vivant. Et la paix, ben oui, forcément, la paix avec Dieu. et la paix entre nous. Vous savez que c'est quelque chose qui n'est pas si automatique que ça. Hein. Quand je vais mettre mon nez, parfois à droite et gauche, dans une église, gentiment, hein, discrètement, humblement, je dis, purée, oulala, oulala, ça a l'air en paix, mais ça ne l'est pas. Oulala, ça, il s'en prépare des trucs. On voit le dessus de l'iceberg, mais en dessous, il y a plein de trucs. Il faut ramener la paix. C'est pas facile, c'est pas facile, parce qu'on est dans une race ici de gens durs. De gens durs en Europe, même chez les chrétiens. Ils sont contents d'eux-mêmes, mais contents des autres, parfois de Jésus-Christ aussi. Philippiens 4, 21. Philippiens 4, 21. Saluez tous les saints en Jésus-Christ, les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Donc, qu'est-ce que nous voyons là? C'est clair, les saints en Jésus-Christ, c'est pas d'abord des saints pour soi-même, c'est pas d'abord des saints parce qu'on est ensemble, c'est en Jésus-Christ. Si on n'est pas en Jésus-Christ, de manière vivante, à Dieu la sainteté, comme une baudruche qu'on a piquée. Les frères qui sont avec moi vous saluent, tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Voilà encore une assemblée. Voilà encore une assemblée. Et au verset 15, il me semble qu'il y avait quelque chose. Vous le savez vous-même, Philippiens, donc les chrétiens de la ville de Philippe, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Donc, Paul travaillait de ses mains. Il ne recevait ni argent, rien du tout, de ses églises lorsqu'il est parti de Macédoine. Et il dit ça à l'église de Philippe. Pourquoi? Pour qu'il se rende compte qu'il travaille gratuitement pour Dieu. Et par la grâce de Dieu, il arrive à travailler, à annoncer l'évangile et à vivre. Vous voyez, et quelle, l'expression qui je trouve intéressante, c'est le mot « église ». Ici, c'est employé clairement « aucune église ». Donc, il y en a plusieurs. Dans Colossiens, chapitre 1, verset 1, quelle heure est-il ? Midi 20. Midi 20, oula.
Midi
5.
5. Midi 5 minutes.
Oui, vous voyez que les pavillons, ça change. Si je commence à comprendre un peu certaines personnes un peu plus âgées que moi. Colossiens 1:1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Aux saints et fidèles frères. Regardez, c'est pas mis église, mais ça revient au même. C'est beau. Il ne tombe pas dans la ritournelle, église, église. Il veut dire des choses chaque fois pour bien percuter. Au chapitre 4, verset 14. Au chapitre 4, verset 14. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. Ah, il faut prendre au verset 13. Je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous. Il s'agit d'Épaphras, hein, verset 12. Il a une grande sollicitude, donc il a vraiment de l'amour et un soin spirituel pour ce chrétien-là. Pour vous, pour ceux de Laodicée, pour ceux d'Hierapolis. Donc, voilà un frère, Épaphras, au verset 12, qui s'occupe de stimuler, d'encourager la foi, l'amour dans les églises, de où ? De Colosse, de Laodicée et d'Hierapolis. Elles ne sont pas une à côté de l'autre, les amis, hein. Il n'avait pas le TGV, l'hélicoptère et la voiture et l'autoroute. Donc c'est quelqu'un qui se donne de la peine. Quand il y a eu l'hérésie d'Arius, évêque syrien, au IIe siècle, et que Arius, un évêque, a prêché que le Christ était une création de Dieu, Dieu avait créé le Christ avait créé l'humanité, c'est comme les témoins de Jéhovah. et que le Christ n'était pas vraiment Dieu au même titre que le Père, ça s'est répandu dans toutes les églises. Il y a eu des milliers d'églises qui sont devenues arianistes. Et comme les arianistes voulaient avoir raison sur les autres qui ne voulaient pas changer d'avis, ils se sont mis d'accord avec le responsable de Constantinople. Et les armées ont visité les autres églises. Pour faire quick-quick. Oui. Eh bien, il y a un petit bonhomme, Athanase d'Alexandrie, un petit bonhomme, sur sa bourrique, qui faisait par an 600 églises avec sa petite bourrique. Pour dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est à la fois Dieu et homme, et que les églises ne devaient pas lâcher, et il allait prêcher partout. Les arianistes l'ont trouvé, ils ont crevé les deux yeux. Il a continué à faire le tour des églises à prêcher que Jésus est le Fils de Dieu, et à la fois Dieu et homme. Et voilà, c'est comme Épaphras. Vous voyez ? Et grâce à ça, il est resté des églises vraiment dans la doctrine chrétienne de l'Évangile. Sinon, c'était fini. Il faut bien faire attention que toutes les doctrines qui ne sont pas conformes à la doctrine des 12 apôtres ne sont pas dignes d'être citées. Et d'être, elles ne sont pas acceptables. Alors, nous étions dans Colossiens, au chapitre 4, verset 14. C'est Luc, le médecin, c'est celui qui a écrit les actes des apôtres et l'évangile. Hein. Et puis, au verset 15, « Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas à l'église qui est dans sa maison. » Tiens, vous voyez bien, les chrétiens qui sont à Laodicée, et puis autre part, chez Nymphas, il y a encore une église. Vous voyez à quel point c'est important d'avoir des nuances dans le mot église et de comprendre ce que ça veut dire, que l'expérience n'est pas celle qu'on voit dans nos villages. Je circule en auto, il y a une église. Dans une région protestante, il y a une église. Ça ne veut peut-être rien dire, il n'y a peut-être pas un seul chrétien en Christ dedans. Ça ne veut rien dire. Il y en a peut-être plein dedans, mais il n'y en a peut-être pas. Ok ? Dans la première aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 1, Paul, Sylvain, parfois Sylvain, hein, Sylvestre, ça veut dire de la forêt, c'est Silas en grec, hein. Sylvain en grec, et Silas, ça doit être d'origine juive, Sylvain et Silas, c'est la même chose, Timothée, ça veut dire celui qui a la crainte de Dieu, le respect de Dieu, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Donc, vous voyez ici, l'église des Thessaloniciens, la ville de Thessalonique, aujourd'hui s'appelle Salonique. Hein? Si vous allez en Grèce, c'est Salonique. Et dans le temps, c'était Thessalonique. Voilà. Alors, au chapitre 2, verset 14, vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. Parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs, donc de certains Juifs, hein, qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes qui nous ont persécutés et qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés. En sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leur péché. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? Il y a réellement un conflit avec les chefs, un certain nombre de chefs du judaïsme, et ils sont très actifs, ils persécutent ces juifs dissidents et ces païens qui deviennent chrétiens. Alors, mais regardez bien, au verset 14, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. Les églises qui sont en Judée, Jérusalem et toute la région, sont en Jésus-Christ. Puis ensuite, dans la Judée. La première localisation de l'Église est spirituelle, en Jésus-Christ. La deuxième localisation du mot Église, c'est une région. C'est une région. Et à quoi on reconnaît que vous êtes semblables à ces églises du départ, les premières églises, vous êtes les imitateurs. Vous subissez les mêmes martyrs, les mêmes persécutions, vous vous comportez dans la même foi. Dans la même foi, dans le même courage, dans le même amour entre vous, dans la même solidarité entre vous, dans la même évangélisation. Quoi qu'il arrive, ils communiquaient l'évangile. Vous vous rendez compte ? C'est un sacré coup de chapeau que Paul donne à ces chrétiens-là. C'est extrêmement important de d'éplucher tout ça. La deuxième aux Thessaloniciens, ça, c'est la même chose. Au chapitre 1, verset 1, Paul, Sylvain, Timothée à l'église des Thessaloniciens qui sont en Dieu notre Père, en Jésus-Christ. La localisation de l'église est d'abord spirituelle. L'identification de l'église est en Christ. Pour moi, il n'y a pas d'église de Rome, il n'y a pas d'église de Tombouctou, il n'y a pas d'église de, je ne sais pas moi, dans les pays protestants, Uppsala ou Londres, hein, Canterbury, en Angleterre, avec l'archevêque et tout le reste, la reine à côté. Ça n'existe pas pour Dieu. L'église est en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu et Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, réellement, il faut retrouver l'identité de l'Église, et nous y sommes, les textes le montrent eux-mêmes. Au verset 4, 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4, « Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les Églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. » Donc, c'est la même église que la première aux Thessaloniciens. Elle subit les mêmes épreuves que les églises en Judée. Et, regardez bien comme Paul dit les choses. C'est une preuve du jugement de Dieu. C'est tellement il vous aime, il vous a permis de vivre les mêmes souffrances que le Christ et les premiers chrétiens de Judée. Et, donc, ce qui leur arrive est comme le signe qu'ils sont... comme la crème au-dessus du lait, comme la couronne au-dessus de la tête du roi. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous, qui êtes affligés, l'affliction, la persécution, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Il met l'Église en face du retour de Jésus et en face de son choix. Tu souffres avec moi, comme Jésus, tu souffres avec Christ, ou tu ne souffres pas du tout et tu n'obéis pas. Regardez, verset 8, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ce qui m'a frappé, moi, au Bénin, quand je l'ai prêché dans les églises, j'étais très prudent. Je demandais vraiment au Seigneur de m'éclairer. Je me suis rendu compte que quand quelqu'un, là-bas en Afrique, devient chrétien, dans ces assemblées où tout le monde est presque pieds nus, où tout le monde fait des kilomètres à pied pour venir au culte, et parfois il fait noir, parce que, comme je prêchais dans la matinée et dans le soir, au soir, il y a des gens qui retournaient à travers la brousse, moi je me serais perdu dans la nature, ils connaissaient bien les chemins. Mais ce qu'il y a, cette église-là, qui souffre, parce que c'est des gens qui souffrent, cette église-là est peut-être beaucoup devant nous par rapport à l'Occident, aux yeux de Dieu. Je faisais gaffe à ce que je disais, hein, et mon comportement, parce que je ne veux pas me tromper, ces personnes-là ne sont pas à regarder du haut comme l'occidental qui arrive. Hein. Dans l'évangile, ça n'existe pas, ça. La première à Timothée, chapitre 3. Verset 14. Première à Timothée, chapitre 3, verset 14. « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt chez toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. » Voilà le mot pour l'Église, là. La maison de Dieu. Qui est l'Église du Dieu vivant? Donc, c'est tout de même important de voir c'est la réunion des gens sauvés en Jésus-Christ qui appartiennent au Dieu vivant, qui sont dirigés par le Dieu vivant. Donc Dieu n'est pas à 600 km, 2000 km, il n'est pas au ciel et il est sur l'église. Non, le Dieu vivant est dans l'église. Quand je me rappelle dans ces assemblées là au Bénin, quand je leur parlais et tout, je voyais bien au visage que le Dieu vivant les touchait et était là. Je le voyais bien. Et pour en être convaincu, je préférais jeûner et prier pour voir les choses comme elles étaient. Pas avec les yeux quand on vient de l'Occident. Parce que on a des lunettes de bois souvent. Alors, dans 1 Timothée, le chapitre 3, verset 15, vous avez ceci, l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est l'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité? Est-ce que c'est l'Église? Ou est-ce que c'est le Dieu vivant dans l'Église? Je n'ai pas eu le temps d'aller voir le texte en grec et de regarder. Parce que vous savez, quand on regarde un texte, des fois, on se dit en français, purée, c'est quoi? C'est quel sens à donner? Ben, il faut aller voir dans le texte.
C'est l'Église du Dieu vivant qui est la colonne de la vérité.
Moi, je pense en tout cas que dans l'Église, je vais raisonner maintenant, argumenter. Si Dieu n'est pas dans l'Église et qu'elle se dit la colonne de la vérité, il n'y a que des nigauds pour le croire. Si le Christ est vivant dans l'Église, il est vécu comme l'Église de Philadelphie dans l'Apocalypse, alors le Christ est la colonne et l'appui de la vérité. C'est la fondation de la vérité. Dans l'Église. Donc l'Église elle-même, si elle vit avec Christ, est la colonne et l'appui de la vérité pour tous les autres qui vont apprendre à connaître Christ. Mais je pense qu'il n'y a pas d'Église qui puisse dire « Je suis la colonne et l'appui de la vérité » sans une relation réelle à Christ. Or, nous avons en Occident des gens qui se disent infaillibles et qui ne se trompent pas et qui ont décrété que leur parole était égale à celle de Christ. Décret du Concile 1870, Vatican I, à Rome. Or, si je regarde toutes les banques et tout ce qui se passe là, je ne vois pas où est la vérité. Et toutes les doctrines fondées dans des conciles qui ne sont pas en respect de la parole de Dieu. Je ne vois pas où est la colonne et l'appui de la vérité. On a beau se le dire soi-même. Eh bien, on peut trouver ça dans des églises protestantes aussi. On peut avoir des gens qui sont imbus, qui se figurent. Il n'y a qu'eux, et c'est le meilleur, c'est nous. Regardez bien cette église d'Apocalypse. Jésus n'en reconnaît qu'une qui est fidèle. Elle a gardé sa parole. Elle est sans puissance. Donc elle n'a pas accumulé des armées, les grands bâtiments, le fric, etc. Les relations diplomatiques et tout. L'église de Philadelphie. Et les autres, attention, vous passez pour être vivant, mais vous êtes mort. Oui, lisez les sept églises d'Apocalypse, chapitre 2 et 3, vous verrez qu'on ne peut pas tromper Dieu, on ne peut que se tromper soi-même. Alors, l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité, c'est l'église qui appartient en relation directe avec le Christ. Et sans contredit, le mystère de la piété, donc de la foi, est grand. Dieu a été manifesté en chair, donc humainement, justifié par l'Esprit, donc ressuscité par la puissance de l'Esprit Saint, et à travers les miracles, etc., vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Voilà toute la vocation de l'Église. C'est fort important, les amis. C'est que la vocation de l'Église, c'est d'être la manifestation corporelle, spirituelle, du Christ vivant, ressuscité. Elle doit être le signe sur terre de Jésus, du vrai Jésus de Nazareth, mort pour nos péchés et ressuscité. Elle doit être le signe justifié par l'Esprit. Quand quelqu'un cherche la vérité, il se dit, mais ceux-là, vraiment, ils connaissent Jésus. Ceux-là, ils en vivent. Les autres, là, j'y crois pas. C'est de l'artifice. C'est du semblant, etc. Justifié par l'Esprit. vu des anges, donc les anges eux-mêmes du ciel disent, ça c'est vraiment l'Église qui appartient à Jésus. On aime bien de regarder ce que Jésus fait dans ces gens-là. Eh bien, dans l'épître de Pierre, dans la première épître de Pierre, Pierre dit que les anges désirent plonger leur regard dans l'Église, dans celle qui vit avec Jésus, évidemment. Les anges ne vont pas autre part. Prêcher aux nations, donc le Jésus qui est manifesté est prêché aux nations. Donc, par définition, une Église qui est la manifestation corporelle de Jésus ici sur terre et spirituelle, va vers les nations. Elle va vers les nations. Elle est missionnaire. Je me suis posé cette question en relisant la Bible, en relisant cette semaine plusieurs fois. Et c'est pour ça que je vous parlerai des promesses d'Abraham dimanche prochain. Pourquoi ? Parce que depuis que j'ai terminé, j'ai arrêté mon boulot, j'ai fait l'institut. Et puis après, pourquoi est-ce qu'il y a des églises en France ? Alors que beaucoup me disaient, il n'y aura pas de Français qui t'aidera, il n'y aura rien et tout. Hein? Pourquoi il y a plein d'églises en France, de chrétiens français, qui ont envoyé de l'argent pour nourrir notre famille, pour même accueillir tous les réfugiés ici, et, comme je le crois, pour réaliser les projets de l'école et de la maison de prière. C'est pour ça que je vais partir assez souvent cette année. D'ailleurs, le 22 et le 29 avril, je ne suis pas là, je vais dans d'autres églises. Mais ce qu'il y a, pourquoi ? Parce que là où les églises ont été fondées par des gens qui ont une doctrine saine, ils savent que l'évangile va faire les nations, que l'évangile est missionnaire. Tous ces pasteurs américains qui sont venus, eux-mêmes aidés par leurs églises, sont venus en Europe pour donner la contagion de la mission. Dans toutes les églises, l'église d'Angers, je faisais mes comptes, il n'y a pas longtemps de ça, depuis des années, l'église elle-même me versait de l'argent à la mission à mes billes, plus certains membres qui m'envoyaient un chèque ou de l'argent, ça faisait 1000 euros par mois. Comment ça se fait que cette église m'envoie 1000 euros par mois depuis tant d'années? Alors je me dis, mais c'est Eugène et David, même forte, qui étaient missionnaires et qui ont donné cette contagion. Mais où a-t-il eu cette contagion, Eugène? Eugène, à 16-17 ans, il s'est fait attraper par les flics parce qu'il faisait des petits coups partout. Il faisait des sales coups, le jeune. Et puis un jour, un pasteur lui a parlé de Jésus. Il est venu dans l'église, on lui a enseigné Jésus, et puis il a eu la vocation d'être missionnaire. S'il n'avait pas rencontré cette église et ce pasteur, ben il était en prison. Il était mal barré, il était parti dans tous les sens. Comment la vie peut-elle changer chez quelqu'un? Par la parole de Dieu. Comment peut-il avoir le souci de donner la parole de Dieu s'il a vu les premiers chrétiens qu'il a rencontrés ont le souci d'annoncer l'évangile, il va l'avoir lui-même. S'il rencontre des chrétiens qui n'ont pas le souci d'annoncer l'évangile lui-même, ça va être un conservateur de musée. C'est un chrétien conservateur, un frigo. Il va garder ce qu'il a et puis c'est tout. Alors, c'est ce que Jésus dit, le talent là, dans la main. Je savais que tu étais un maître dur, je l'ai enterré, et te revoilà, je te le redonne. Donc, toute œuvre de Dieu dans une église amène la prédication aux nations, amène à apporter l'évangile aux autres. Et je vais dire, on a une grande grâce, parce qu'avec tous ces réfugiés qui sont venus ici, ils ont tous entendu l'évangile, on a pris à table avec eux, il y a eu des études bibliques, il y a eu le culte. Dieu s'occupe d'eux. Maintenant, il faut continuer. Quand je vois ce petit coup de téléphone là, du Luxembourg, où cette femme pleure, elle est en détresse. Combien de gens sont en détresse? Imaginez qu'on mette une annonce régulièrement au Luxembourg ou même autre part, et que la maison de prière là-bas au-dessus soit faite. Il faut des gens là, pour recueillir les gens, les gens en morceaux, la porcelaine cassée. Combien de gens sont complètement déglingués dans notre société? Il faut les écouter des heures. Et quand on les a écoutés, il faut encore prier des heures. Et puis après avoir, tiens, je dois aller dans tel texte pour, avec ces personnes. Là, je sais que le Seigneur va les guérir. Et il faut mettre ça en eux, des heures. Donc, il faut des serviteurs de Dieu, il faut évangéliser. Ça fait partie de l'œuvre de Christ, de son salut. Dieu a été manifesté en chair, donc nous sommes la chair de Christ. Nous sommes le corps de Christ, oui, parce que nous sommes visiblement la manifestation de Jésus, si nous sommes dans sa volonté. Prêchionnation, crue dans le monde, donc il y a des gens qui acceptent, et ce n'est pas que des Belges, ce n'est pas que des Français, c'est des gens partout. Élevé dans la gloire, ah ça oui, l'air de rien, Dieu nous élève auprès de lui, et il nous donnera pleinement la gloire. Nous sommes déjà sous sa gloire, promise à jamais. Je termine au chapitre 5 de cette épître pour aujourd'hui. Chapitre 5, verset 16. Si quelqu'un fidèle, homme ou femme, il y avait des gens assez riches dans les églises, ou en tout cas qui avaient une prospérité, a des veuves qui les assistent et que l'église n'en soit point chargée, afin qu'elles puissent assister celles qui sont véritablement veuves. Donc, qu'est-ce que fait l'église ? Il y a énormément de femmes seules dans notre société aujourd'hui, ici en Europe. Il y a tellement eu d'aventures depuis l'âge de 12, 13, 14 ans jusqu'à 28, 29 ans que des femmes sont seules avec des gosses. Ah oui, elles ont déconné parce qu'on les a laissées déconner. Et parce qu'on a dit c'est bien, la liberté c'est bon. En confondant que la liberté et le péché c'est pas la même chose. Et ces gamines-là ont grandi, et à 28, 29, 30 ans, elles sont avec plusieurs gosses, et plus personne n'en veut, à moins que des aventuriers qui passent les courants d'air dans leur lit, puis là-dessus, je vais en voir une autre. Pratiquement, il y a dans notre société des fausses veuves, c'est celle-là, il y en a énormément. Puis il y a vraiment les veuves, celles qui ont perdu leur mari suite à un décès, un cancer, etc., il y a plein de gens. Et puis, il faut faire quoi avec tout ça ? C'est quand même des gens pour qui Jésus est mort sur la croix. Alors, il faut qu'il y ait des gens qui soient attentifs. Ce n'est pas forcément toute l'Église. Il y a des gens qui ont de la prospérité et qui doivent pouvoir aider. Pourquoi il faut aider ? Regardez bien les journaux. Vous prenez le Shopping ou un autre journal, le Vlan, enfin peu importe. Vous regardez au fond. Et quand vous regardez au fond, voyance, astrologie, plein de femmes qui le font. Pourquoi ? Pour avoir des sous pour nourrir leurs gosses. La deuxième chose, elles cherchent un rencard. Peut-être pas les mêmes. Belle jeune fille, avec belle poitrine, beaux cheveux, etc. Cherche homme, etc. Et un être vers lequel fait des yeux. Mais en attendant... Tout ça, c'est les chemins de perdition. Et puis, il y a aussi des gars qui cherchent des femmes comme ça, parce qu'ils savent très bien qu'ils les rouleront, ils vont y aller un certain temps, comme le bourdon qui va sur la fleur, mais lui, le bourdon, il ne va pas refaire du miel dans la ruche, lui. Pouf, pouf, il passe d'une fleur à l'autre, et puis il se nourrit, c'est tout. Donc, il y a dans notre société plein de gens qui sont dans un état, parce que avec le RSI, le RSA en France, 450, 430, il n'y a pas de sous pour vivre. Vous payez un loyer, une chambre, ça y est, il ne reste rien. Et une femme, eh bien, quand une femme n'a pas la retraite, voilà qu'il y a depuis quelques années en Belgique, pas longtemps, 2-3 ans, que la pension de M. Bayeux ici ne sera pas transmissible à Mme Bayeux qui est là. Ça veut dire quoi ça ? Madame Bayeux va devoir faire quoi ? Se trouver un gars ? Et ils vont vivre ensemble sans être mariés, pensionnés ensemble, pourquoi ? Parce qu'elle ne peut pas vivre toute seule. Elle n'a pas assez d'argent. Notre société est en train de préparer la chute spirituelle de plein de gens. Parce qu'il n'y a plus, il n'y a pas d'attention vraiment aux personnes. Il y a des règles qui sont en train de se délétérer. Il y a des règles sociales, des solidarités sociales qui sont disparues. Le cœur de chacun se referme sur soi-même et on ne va pas regarder aux autres. Eh bien, pratiquement, l'Église de Christ, c'est tout le contraire. Elle doit faire la preuve du contraire, de la compassion de Christ et de la solidarité de Christ. Et donc, déjà à cette époque-là, plein de femmes se trouvaient sur le trottoir. On le comprenne comme on veut, esclave d'un tas de choses, et il fallait les aider. Bon, naturellement, si une jeune femme ou une veuve a la capacité de travailler, il ne faut pas l'encourager à être paresseuse. Qu'elle aille travailler pour nourrir ses enfants et qu'elle apprenne à ses enfants à travailler, surtout. Mais évidemment, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un travail ou d'avoir la santé pour faire tel ou tel travail. Ou le moyen de locomotion pour aller faire tel travail à tel endroit. Donc pratiquement, l'Église doit être attentive à ces problèmes-là. Pourquoi ? Pour que l'Église n'en soit pas chargée, il faut que chaque chrétien se sente responsable. Donc vous voyez que l'Église prêche l'Évangile, mais, s'il vous plaît, elle le vit. Elle le vit. Sinon, elle a beau prêcher. Une Église n'est crédible qu'à partir du moment où elle vit la parole de Dieu. C'est quelque chose que je voulais dire aujourd'hui. Dimanche prochain, on apportera un regard sur les promesses faites à Abraham et on verra que tout a démarré qu'Abraham pour nous éclairer sur le futur de nos assemblées, de notre vie chrétienne. Si quelqu'un veut prier et louer le Seigneur, je m'en réjouirai. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.